La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La voix de l'emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole. Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 passé sur News FM et vous écoutez La Voix de l'Emploi en direct. Pour cette émission de février, un seul invité face à moi, mais pour parler d'un sujet de poids, il s'agit de Pôle Emploi. Il y a à peine un peu plus de 10 ans, en 2008, le service public de l'emploi en France connaissait une réforme en profondeur avec la fusion de deux organismes historiques chargés de l'accompagnement des chômeurs, la NPE, agence ressources pour les demandeurs d'emploi, et l'ACEDIC, chargée de l'indemnisation des chômeurs au titre de l'assurance chômage. Ces deux organismes se fondaient donc en une seule et même entité baptisée Pôle Emploi. D'après les chiffres 2017, qui sont les derniers que l'on trouve sur le site d'information de Pôle Emploi, Pôle Emploi en France, c'était il y a deux ans encore 915 agences et points relais sur tout le territoire, plus de 54 000 employés, plus de 8 millions de personnes inscrites et 33,6 milliards d'euros versés en allocations chômage. De son côté, le taux de chômage 2018 en France métropolitaine et hors métropolitaine est évalué à 9,1% de la population active. Pour le seul territoire métropolitain, cela correspond à 2,5 millions de personnes en quête d'un emploi. Mathieu Boutaz est avec nous aujourd'hui dans le studio de News FM. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer Pôle Emploi, faire un petit point sur cette structure, ces bilans qui ont été présentés il n'y a pas très longtemps, et puis les perspectives qui seront évoquées également. Alors on reviendra sur le bilan et les perspectives dans la deuxième partie de notre émission. Pour commencer, d'un point de vue plus général, j'aimerais déjà qu'on évoque la petite contradiction qu'il y a dans les chiffres, puisque je parlais des chiffres officiels du chômage, 2,5 millions de chômeurs en France, et il y a 4 fois plus de personnes inscrites à Pôle Emploi. Alors d'où ça vient cette différence, 2,5 millions, 8 millions de personnes à Pôle Emploi ?
Alors effectivement, ce qu'il se passe, c'est que quand on communique les chiffres du chômage, on parle des demandeurs d'emploi qui n'ont aucune activité. C'est la fameuse catégorie A, ce sont les demandeurs d'emploi qui sur le mois n'ont eu aucune activité. À ça s'ajoute, donc c'est les 2 900 000, 3 millions de demandeurs d'emploi que nous avons. À cela s'ajoute près de 3 millions de demandeurs d'emploi qui ont une activité. Qui travaillent tous les mois régulièrement, mais qui nous déclarent être à la recherche d'un autre emploi ou d'un emploi complémentaire. Donc c'est vrai qu'on a, sur les listes des demandeurs d'emploi, à la fois des demandeurs d'emploi qui ne travaillent pas, immédiatement disponibles donc à la recherche d'un emploi, et des demandeurs d'emploi qui ont une activité. C'est pour ça qu'effectivement, il peut y avoir une dichotomie entre les chiffres quelquefois annoncés quand on parle de la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas, et l'ensemble des demandeurs d'emploi, même ceux qui travaillent. Et je dirais que même ceux qui travaillent à temps plein, puisque c'est tout à fait possible, une personne travaillant à temps plein, qui se déclare être en recherche d'emploi, peut être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
Voilà, donc c'était important déjà de signaler qu'en termes de chiffres, effectivement, suivant les sources que l'on peut avoir, il y a des grosses différences et on se perd très rapidement dans tout ça. Alors, si on revient encore une fois sur des chiffres, en 2008, année de la création de Pôle Emploi, le taux de chômage était évalué alors à 7,4%. 10 ans après, on est à 9,1% ou 8,8% si on s'en tient à la seule France métropolitaine. 9,1%, c'est la France plus les territoires, les régions d'outre-mer. Alors on le voit, la bataille contre le chômage n'a pas évolué vers la baisse. C'est vrai que depuis 2008, il y a eu les années crises qui sont arrivées. Ma première question est d'ordre général. Peut-être que la réponse est trop complexe pour pouvoir être résumée aujourd'hui, mais on va quand même tenter en quelques mots c'est vous d'ailleurs qui allez avoir cette lourde tâche d'essayer de résumer pourquoi c'est si difficile en France de faire baisser le chômage.
Alors si vous voulez, il y a la seule chose qui fera baisser sensiblement le chômage, c'est la création d'emplois. Or, Déjà, heureusement qu'il n'y a pas eu de destruction d'emplois sur 2018, il y a eu de la création d'emplois à hauteur de 24 000 nouveaux emplois créés sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est déjà bien, mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour inverser durablement la courbe du chômage. Concernant les chiffres, alors, effectivement, sur la France, on est à 8,8% de demandeurs d'emploi, donc c'est bien les demandeurs d'emploi qui n'ont pas d'activité. Sur la région, on est un tout petit peu plus bas, puisqu'on est à 7,9%. Et enfin, ce qui nous intéresse un peu plus encore, c'est le département de l'Isère, où là, on est à 7,7%, donc on va dire avec des chiffres qui sont plutôt bien orientés. Mais c'est vrai qu'il faudrait, et c'est ce que j'espère pour les années qui arrivent, davantage de création d'emplois, de postes, pour que le nombre de demandeurs d'emploi diminue et diminue durablement et significativement. Là, c'est déjà bien, on en a créé, mais j'ai envie de dire pas assez pour un renversement de la courbe, si je puis dire.
Est-ce que la façon dont notre pays est structuré au niveau de l'interaction de l'économique, du social, est-ce que tout ça, ça gêne un peu? Parce que quand on se compare à nos voisins européens, notamment l'Allemagne, on se compare souvent à l'Allemagne puisque le couple franco-allemand est moteur dans la construction de l'Union européenne, mais les Allemands sont quand même en tête du taux de chômage le plus bas, 3,3%. La France, on est 20e sur 27 pays, alors 28, mais je ne compte plus le Royaume-Uni, donc 20e sur 27, on n'est pas très bon, alors ça s'explique par...
Non, déjà, il faut effectivement être extrêmement vigilant par rapport aux comparatifs et aux comparaisons. En Allemagne, il y a énormément de travailleurs pauvres, de travailleurs précaires, il y en a également malheureusement en France, mais les chiffres et les comparaisons sont difficilement exploitables. Ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, il faut un demandeur d'emploi a deux choses. Il a des droits, il a un droit à un accompagnement, il a des droits à une allocation chômage si effectivement il a suffisamment cotisé. Il a également des devoirs, une recherche active d'emploi, se présenter à des entretiens. Voilà, tout un tas de choses qui font que l'objectif, c'est que cette période de demande d'emploi soit la plus courte possible. On a malheureusement encore beaucoup trop de demandeurs d'emploi de longue durée, hein, c'est-à-dire plus de 12 mois. Et même de très longue durée, c'est-à-dire des personnes qui ont plus de 24 mois d'inscription à Pôle emploi. C'est une difficulté supplémentaire, évidemment, quand on reste longtemps inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi. Et là, c'est tout notre travail à nous, et surtout aux conseillers de Pôle emploi, de les remobiliser, de les former, et de faire en sorte qu'ils retrouvent, alors peut-être pas tout de suite un CDI, parce que ça, c'est le Graal, mais en tout cas, voilà, ça peut être par l'insertion, par des CDD, et ensuite avoir un emploi pérenne. Je serai... je prendrai avec précaution les comparatifs parce que nous déjà on a par exemple un temps partiel peut pas être inférieur à 24 heures par semaine, y a le salaire minimum, voilà, il y a tout un tas de choses que nos collègues européens n'ont peut-être pas et qui font que les chiffres sont difficilement comparables.
Des réglementations aussi en matière du travail qui ne sont pas les mêmes, forcément, d'un pays à l'autre.
Exactement.
Est-ce qu'on est moins souple en France ?
Alors, je ne dirais pas qu'on est moins souple. On a des protections, qu'on soit effectivement salarié ou qu'on soit cadre, créateur d'entreprise. Ces protections, à mon sens, ne sont pas là pour freiner ou n'ont pas freiné la reprise. Néanmoins, effectivement, il est peut-être intéressant de travailler sur des formes de souplesse, des contrats qui soient effectivement peut-être de courte durée, mais avec des évolutions, de la formation. C'est ce qu'on a fait aussi beaucoup sur les contrats aidés. On avait avant beaucoup de contrats aidés, hein, des contrats uniques d'insertion, des choses comme ça. Effectivement, les pouvoirs publics ont décidé de diminuer le nombre de contrats aidés. Ça a été difficile pour certaines associations, pour certaines mairies ou collectivités locales. Néanmoins, en échange de cette diminution, le suivi dans ces contrats-là, par exemple, est beaucoup plus strict et beaucoup plus intéressant, que ce soit pour l'employeur et pour le salarié. Voilà, donc on essaie de faire, bien évidemment, plus pour ceux qui en ont le plus besoin, et puis ensuite, faire un peu autrement pour ceux qui sont un peu plus autonomes, par exemple.
Alors, vous avez dit qu'il faut faire attention aux comparaisons entre la France et d'autres pays. Est-ce que malgré tout, on ne s'inspire pas assez en France de certaines choses qui fonctionnent dans d'autres pays européens et que l'on n'applique pas chez nous ?
C'est possible. C'est possible qu'il y ait effectivement... Alors, nous, à Pôle emploi, on a pas mal de nos collègues, on a des salariés de Pôle emploi qui ont cette mission, effectivement, d'échanger avec les autres... j'ai envie de dire Pôle emploi allemand, européen, italien, anglais, etc., pour voir ce que chez eux pourrait chez nous être applicable, alors réglementairement parlant, et puis ce qui pourrait être effectivement des bonnes pratiques. On accueille par contre, nous, énormément de collègues européens qui viennent chez nous pour se renseigner sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, également sur tout ce qui concerne l'allocation chômage, hein, parce que on verse des allocations de chômage, comme vous le savez, mais surtout, on les verse dans les délais. Hein. Plus de 97% des allocations sont versées dans les temps, ce qui, si on fait la comparaison avec nos autres collègues européens, n'est pas tout le temps le cas. Et nous, vraiment, c'est une force de Pôle emploi de payer dans les temps, notamment.
Alors c'est vrai qu'il est bon de rappeler qu'il y a des choses qui fonctionnent en France beaucoup. Et que les pays, d'autres pays peuvent aussi s'inspirer. Notamment, on sait que beaucoup de pays nous envient la protection sociale qui existe chez nous, même si ce n'est pas toujours facile à la maintenir. Et notamment, on pense à ce fameux trou de la Sécu. Hein, voilà. Mais la sécurité sociale, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, la question du chômage est depuis 40 ans au centre des préoccupations des Français, c'est-à-dire depuis la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire les 30 années d'essor économique qui ont suivi l'après-Seconde Guerre mondiale. Par voie de conséquence, le chômage est un des sujets préférés des candidats politiques, et c'est l'un des principaux chevaux de bataille des gouvernements qui se sont succédés ces quatre dernières décennies. Si on revient sur cette fameuse, on peut dire révolution de 2008, la création de Pôle emploi avec la fusion de la NPE et de la CEDIC, est-ce que ça a été une bonne décision?
Oh ouais, ça a été une bonne décision, ça je sais pas, c'est difficile de m'exprimer là-dessus. En tout cas, c'était une décision qui paraissait logique. L'objectif des conseillers de l'époque de la CEDIC et de la NPE n'était pas le même, mais nous travaillons dans le même domaine, dans le même sens. Le fait de fusionner la NPE et la CEDIC, effectivement, au début, ça n'a pas été tout le temps évident. Hein. On sait bien que dans des structure de cette taille-là, c'est pas facile. Il y a des statuts différents, il y a des conventions collectives différentes, tout un tas de choses qui peut-être au début ont été à l'origine d'un certain nombre de dysfonctionnements ou en tout cas de freins. Mais je dirais que depuis plusieurs années, on en voit les conséquences positives. Je le disais, les allocations sont payées dans les temps, l'accompagnement des demandeurs d'emploi est, peut évidemment s'améliorer, mais on a choisi. À l'époque de la NPE, il fallait recevoir tous les demandeurs d'emploi de la même manière. Une fois par mois, deux fois par mois, voilà. Bon, il y avait ça à faire. Avec Pôle emploi, on s'est adapté pour faire en sorte de recevoir plus régulièrement, une fois par mois, voire même quelquefois même une fois par semaine, un certain nombre de demandeurs d'emploi qui sont plus en difficulté. D'autres demandeurs d'emploi qui sont autonomes, alors qu'ils sont d'autant plus maintenant avec les outils numériques, hein, parce que maintenant vous n'avez même plus à vous déplacer sur les agences pour avoir une attestation ou quoi que ce soit. Mais ces demandeurs d'emploi qui sont plus autonomes, ils sont dans un accompagnement qui fait que on sait que de par eux-mêmes, ils peuvent retrouver un emploi. Donc nous, on est là effectivement pour l'ingénierie, pour les demandes de formations éventuelles. Mais voilà, on a préféré faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, qui sont le plus éloignés. On a des accompagnements comme l'accompagnement global, par exemple, qui est destiné à un public avec des freins périphériques. Ça peut être des freins de santé, par exemple, des freins de surendettement, enfin tout un tas de choses. Et que d'autres, effectivement, notamment les cadres, on estime qu'ils sont peut-être, il y en a d'autres, mais c'est une population qui est importante. Voilà, ils sont autonomes, ils savent rechercher un emploi, ils n'ont pas nécessairement besoin d'un appui mensuel, d'un entretien mensuel avec Pôle emploi.
Vous avez évoqué tout à l'heure les obligations des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, ce serait bien d'y revenir un petit peu plus, parce que ça revient fréquemment dans les débats autour de l'accompagnement, que ce soit des demandeurs d'emploi, mais aussi plus généralement les gens qui sont dans des situations sociale, difficile. On veut éviter l'assistanat en France. Par exemple, les allocataires du RSA, maintenant, sont plus dans une démarche de responsabilisation, il faut un échange réciproque. Ils doivent s'engager aussi. Alors, les demandeurs d'emploi, quelles sont leurs obligations? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour continuer à pouvoir bénéficier de l'accompagnement de Pôle emploi?
Alors oui, et comme je le disais, effectivement, il y a des droits et des devoirs. Dans le cadre de la nouvelle loi là, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, il y a un chapitre qui est effectivement réservé, destiné à ses droits et surtout ses devoirs des demandeurs d'emploi. Alors, le demandeur d'emploi, il a l'obligation, s'il souhaite rester sur la liste des demandeurs d'emploi, d'être actif dans sa recherche d'emploi. Il a effectivement une obligation de se rendre au rendez-vous que le conseiller Pôle emploi lui propose. Ou, s'il ne s'y rend pas, effectivement, de nous en avertir avant et de nous apporter un justificatif. Je dirais que c'est la même chose pour tout le monde, tout salarié. On s'absente, on a à se justifier. Ce qui a changé depuis le 1er janvier 2019, et on en parle beaucoup, c'est le fait d'être peut-être un peu plus vigilant sur les récidives, à savoir un demandeur d'emploi qui ne se présenterait pas à 2, 3 ou 4, ce qui peut se passer, entretien, demande de rendez-vous, eh bien effectivement, il serait sanctionné et serait radié de la liste des demandeurs d'emploi. Je pense que ça s'explique par le fait que le temps que le conseiller convoque, atteste de l'absence, etc., c'est du temps qu'il ne consacre pas aux demandeurs d'emploi qui, eux, sont, pour la plus grande partie d'entre eux, effectivement à la recherche d'un emploi. Donc nous, on a effectivement à contrôler cette recherche d'emploi. C'est pour ça que, notamment, il y a eu des créations de postes sur le contrôle de la recherche d'emploi. Alors, ce n'est pas exactement un contrôle pour dire de sanctionner. C'est un contrôle pour dire de redynamiser. C'est-à-dire, par exemple, sur les contrôles de 2018, sur l'ensemble des contrôles, seuls 12% des contrôles sont arrivés à une sanction. Tout le reste, on a attesté de la bonne recherche d'emploi, et puis pour certaines personnes peut-être un peu démoralisées ou démobilisées, on leur a proposé un certain nombre de choses pour un peu reprendre le pied à l'étrier de la recherche d'emploi. C'est vraiment là-dessus que les pouvoirs publics ont mis la focale. Contrôle ne veut pas dire systématiquement sanction, ça c'est très important. Et puis, j'ai envie de dire qu'on a une bienveillance, c'est-à-dire que voilà, une personne qui nous explique qu'elle a été absente pour une raison qui est entendable, notre objectif, ce n'est pas de radier les gens, hein, c'est évidemment de les aider et de leur faire retrouver un emploi. Mais par contre, il faut savoir qu'on a un entretien, il faut soit s'y rendre, soit s'excuser de ne pas y aller. Pareil pour une prestation, on envoie beaucoup de gens en formation, en prestation, sur des ateliers. Il peut y arriver que des personnes n'y vont pas, ben nous on a besoin de savoir pourquoi ils n'y sont pas allés. Et surtout, si ça fait 2, 3 ou 4 fois qu'ils n'y sont pas allés, il faut le justifier.
Donc ça veut dire que ce qu'on reproche souvent à des organismes comme la CAF ou même Pôle emploi, de considérer les gens comme des dossiers, des numéros et pas des personnes, là, vous nous confirmez qu'il y a bien une personnalisation dans l'accompagnement et le suivi.
Alors, vous aurez toujours malheureusement la personne qui a des problèmes avec le système, etc. Ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que globalement, bien évidemment, on a personnalisé la relation. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes demandeur d'emploi, vous téléphonez au 3949, eh bien, c'est une plateforme qui avant était régionale, un peu, voilà, on ne savait pas trop. Maintenant, ce sont des conseillers, par exemple, ici on est à Fontaine, donc de l'agence de Fontaine, qui répondent directement aux demandeurs d'emploi de Fontaine. Donc, ils sont au courant du dossier, de la personne, quelquefois même, on se connaît puisqu'on l'a vu à l'accueil, etc. Donc, c'est vrai que cette personnalisation, c'est prioritaire, c'est primordial. Et c'est ce qu'on essaie de renforcer pour l'année qui arrive.
Eh ben justement, ce qui arrive cette année, les perspectives 2019, mais également le bilan 2018, on va en parler plus amplement dans la deuxième partie de notre émission. Le temps de faire une courte pause musicale et on continue la discussion avec Mathieu Boutaz du Pôle emploi de Fontaine. À tout de suite.
In the station, it's no joke. Family's not the station, it's about no joke. This is for real now. Give me your love, give me your love, give me your love. Love is everything. Give me your love, give me your love, give me your love. Love is everything. Give me your love, give me your love, give me your love. Love is everything. Give me your love, give me your love, yeah. Give me your love. Give me your love, love is urgent. Love is the only reason why this life is given to I. Without it there would be no sun in the skies and no light in the night.
Love is everything. Don't you play on my heartstrings. Baby girl, can't you see I'm already on my knees. I, how way don't you go. You're the one and only I know. Whoa, 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 whoa. Give me your love, give me your love, give me your love. Love is everything. Give me your love, give me your love, give me your love. Love is everything. Give me your love, give me your love, give me your love. Love is everything. Give me your love, give me your love, give me your love. Long before I met you, I was wondering whether true love existed. You broke into my life and you changed it away. Nobody ever did before. Now I know.
Now I know.
Now I know.
Now I know.
What wise men say about love is true. Now I know.
Now I know.
Now I know.
Now I know.
What the holy book says about love is true. Oh, 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 oh. Give me your love. Give me your love.
Love is everything.
Give me your love. Love is everything. Give me your love. Give me your love. Give me your love.
Gelangi moy sanatu amulo ndeg bi xol di bakku tay ngeen deggo jekki xulo man na don sa ennemi bul ko bañ te nga nangu bul ma jamu yow la tamu let nga firi yame lima yanu gisatuma kenemi mu nakari dala mu lu bari ngay balé bu ci xadi seral lu mu wax ni tani love deug te lu ko jay ni da nga fi sa jiko du waji dama mi lo joxan ma baali dox ma sa love.
Give me your love, give me your love. Give me your love, love is everything. Give me your love, give me your love, give me your love. Love is everything. Give me your love, give me your love, give me your love. Love is everything. Give me your love, give me your love, give me your love.
Voix de l'emploi, c'est sur News FM. Et aujourd'hui, sur News FM, dans le cadre de la Voix de l'emploi, nous parlons de Pôle emploi avec Mathieu Boutaz du Pôle emploi de Fontaine. Alors, au début de ce mois de février, le bilan régional de Pôle emploi a été rendu public, donc pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le bilan pour notre département de l'Isère. Des perspectives pour cette année 2019 ont aussi été évoquées. Alors Mathieu, concernant le bilan régional, rapidement, quels constats vous semblent les plus importants à mettre en avant ?
Alors, si vous voulez, au niveau régional, donc Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur une bonne dynamique. On a une diminution globale du nombre de demandeurs d'emploi. On a des secteurs qui recrutent. On a ce qu'on appelle une étude en besoin de main-d'œuvre qui est aussi positive pour l'année qui va arriver 2019. Donc voilà, je dirais, je suis plutôt confiant. Alors, on avait une feuille de route avec 14 indicateurs. Sur ces 14 indicateurs, 13 sont à la cible. Et puis un petit peu moins bon. Donc je dirais qu'on a fait le job, si je puis dire. Il faut consolider. Les résultats régionaux sont de la même. Les résultats locaux sont de la même acabit que les résultats régionaux. On est aussi bien positionné. On est ici un département dynamique. Donc je pense qu'on a cette chance-là. Les demandeurs d'emploi ont cette chance-là. J'ai envie de dire les conseillers aussi, Pôle emploi, parce qu'il y a beaucoup de choses à proposer. Et puis les employeurs. Les employeurs aussi. Alors, on a travaillé, nous, mais je dirais toutes les filières, sur les difficultés de recrutement. Alors, on va peut-être en parler sur les perspectives, mais c'est effectivement une problématique. Certains recruteurs, dans certains secteurs, ont du mal à trouver les compétences, les candidats sur leurs activités, alors quand bien même il y a effectivement des demandeurs d'emploi. Mais j'ai envie de dire que c'est tout le challenge de l'année qui arrive, et notamment le plan d'investissement dans les compétences que l'on porte ici en région Rhône-Alpes. C'est cet apport financier qui va nous être indispensable pour former les demandeurs d'emploi, leur permettre d'acquérir des compétences pour qu'ils puissent effectivement être recrutés par les employeurs. Ça, c'est très important.
Donc, c'est une question d'adéquation entre la demande des demandeurs, les secteurs sur lesquels ils souhaitent pouvoir trouver un emploi, et puis finalement les secteurs qui proposent des offres, qui a encore un peu une...
Oui, j'ai envie de dire que...
C'est pas encore en phase.
Oui, il y a des problèmes de phasage, mais j'ai envie de dire que les difficultés de recrutement, il y a deux choses. Il y a l'employeur qui, effectivement, recherche des compétences précises et qu'il ne trouve pas. Donc, là, c'est à nous, effectivement, de monter des formations pour que les demandeurs d'emploi, qui peut-être ont une difficulté sur tel ou tel aspect de la formation, puissent se former et donc intégrer les entreprises. Mais j'ai envie de dire, il y a aussi une seconde chose, c'est travailler sur la marque employeur. Je m'explique, par exemple, c'est vrai qu'actuellement, dans certains secteurs, les métiers en tension notamment...
Qu'est-ce que vous appelez les métiers en tension ?
Les métiers en tension, c'est tout ce qui est l'hôtellerie, la restauration, le transport, les métiers d'aide à la personne, d'aide-soignant, tous ces métiers où il y a plus d'offres que de demandes. Et là, l'employeur a aussi son rôle à jouer en termes de présentation de son offre de service. C'est-à-dire que nous, Pôle emploi, on est là effectivement pour accompagner, hein, pour donner les billes, les axes de formation, et l'employeur est là aussi pour, j'ai envie de dire, pour se vendre, pour vendre son entreprise. Par exemple, quand on parle d'industrie, les jeunes souvent nous disent « Oh là là, non, l'industrie, c'est sale, c'est la nuit, c'est mal payé. » Voilà, il y a beaucoup de choses qui, en fait, qui ne sont pas la réalité. Vous allez maintenant dans des entreprises, vous allez même dans des entreprises vraiment techniques. J'ai travaillé moi en Haute-Savoie dans la vallée de l'Arve, dans le décolletage, etc. Il y a certains ateliers où vous pouvez manger par terre tellement c'est propre. Voilà, tout ça, effectivement, c'est à l'employeur, parce que nous, c'est pas notre rôle, hein, mais c'est vraiment à l'employeur d'aller
casser les a priori.
De casser les a priori, de travailler sur des évolutions possibles. Certains, je le dis facilement, de travailler aussi sur des niveaux de salaire. Hein. C'est vrai que quand on se plaint effectivement de ne pas trouver... et qu'on regarde un peu et qu'on propose 20% de moins que ce que les autres concurrents proposent en termes de salaire, c'est un peu normal malheureusement qu'on ne trouve pas. Le demandeur d'emploi, il est là, il a aussi des attentes, et puis il faut tenter d'y répondre. Il faut tenter d'y répondre, et là on travaille dessus. Alors c'est le PIC, le plan d'investissement dans les compétences. Alors, petite chose, c'est qu'en région Rhône-Alpes, c'est Pôle emploi qui le porte, ce qui veut dire qu'effectivement il y a de l'argent débloqué pour la formation des demandeurs d'emploi, sur des métiers en tension, mais pas que, et avec une cible prioritaire, j'en profite, ce sont les demandeurs d'emploi qui ont un niveau en dessous du bac. Donc ça peut être des jeunes, mais également des moins jeunes qui n'ont pas le bac, et ces personnes-là sont prioritaires sur ce plan d'investissement. Hein, c'est vraiment une focale que les pouvoirs publics ont mis, avec évidemment les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, les personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés, voilà. Mais voilà, c'est vraiment une focale là-dessus, sur 2019, grosse possibilité de formation. Alors des formations qui rentrent dans un certain, dans une logique de reprise d'emploi.
C'est pas des formations adaptées aussi au profil.
Au secteur. Il faut qu'il y ait de l'offre, il faut, et j'ai envie de dire, j'en profite, pour les demandeurs d'emploi qui nous font des demandes de formation, ne pas hésiter à venir avec des promesses d'embauche, par exemple. C'est vrai que c'est un plus pour une éventuelle prise en charge.
Alors, pour revenir plus particulièrement, effectivement, sur le bilan en Isère, donc vous l'avez dit tout à l'heure, un taux de chômage inférieur au taux national, 7,7%, contre 8,8%, donc en France métropolitaine. Pour l'Isère, c'est donc 715 collaborateurs environ, je ne sais pas si le chiffre est très très précis, répartis sur 16 agences Pôle emploi. Ce qui est intéressant aussi, c'est les taux de satisfaction qui sont mis en évidence. C'est un petit peu normal que, que vous mettiez en avant les chiffres qui montrent que aussi bien les demandeurs d'emploi que les entreprises oui. Arrive à trouver satisfaction dans ce partenariat, dans cette relation avec Pôle emploi. Donc, un peu plus de 73% des demandeurs d'emploi se déclarent satisfaits du suivi et de l'accompagnement par Pôle emploi, et puis c'est à peu près 70% pour les entreprises. Donc tout ça, c'est plutôt encourageant pour
alors,
tous
c'est
ceux
plutôt
qui,
encourageant.
Qui agent dans Pôle emploi.
Exactement, c'est encourageant. C'est aussi, ça permet aussi aux conseillers de voir que leur action, effectivement, ça a eu un impact positif. Et puis, ça nous oblige aussi, en termes de résultats, à être au rendez-vous, notamment... en 2019, puisque effectivement les bases ont été posées en 2018, pour consolider ces bons résultats. C'est vrai qu'on a souvent, on entend soit un demandeur d'emploi mécontent, ce qui évidemment arrive, soit une entreprise qui est en difficulté de recrutement, ce qui arrive également, je ne le cache pas. Mais si on prend une globalité, on est plutôt sur des satisfactions, des niveaux de satisfaction qui sont plutôt positifs. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose. Et quand je parlais des indicateurs, ce sont deux indicateurs phares qui, évidemment, seront renouvelés en 2019.
Alors effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des personnes mécontentes, vous le venez de le dire. Peut-être des critiques aussi qui sont parfois formulées par des gens qui n'ont pas une relation directe avec Pôle emploi et qui peuvent avoir une analyse critique sur la façon dont ça se déroule, sur les décisions politiques qui peuvent être prises. Du coup, dans les perspectives 2019, face aux différentes critiques que vous pouvez entendre, est-ce que vous en tenez compte, enfin vous, je dis vous, donc l'institution, hein, Pôle emploi ?
Alors, c'est vrai qu'actuellement, en plus c'est d'actualité, puisque comme vous le savez, les pouvoirs publics sont en négociation de la nouvelle convention d'assurance chômage. Enfin, ils ne le sont plus, puisqu'ils ne se sont pas arrangés, donc c'est effectivement le gouvernement qui prendra ses responsabilités. Nous, on est opérateurs publics de l'État, donc on applique ce qu'effectivement on nous demande d'appliquer en termes de réglementation. Beaucoup de demandeurs d'emploi, quand ils sont insatisfaits, peuvent l'être pour des raisons réglementaires. C'est sûr qu'un demandeur d'emploi qui démissionne, quand on lui dit qu'il n'a pas le droit au chômage parce qu'il a démissionné, c'est pas parce qu'on a envie de lui dire ça, c'est parce que la réglementation dit que quand on démissionne, on n'a pas le droit, pour l'instant, ça peut évoluer, à l'allocation chômage. Nous, effectivement, on fait remonter un certain nombre de choses, et après, c'est au pouvoir public d'orienter la réglementation en fonction éventuellement de ce qu'on peut faire remonter. Je dirais qu'il y a beaucoup aussi d'éléments qui sont liés au budget, qui rentrent en considération, et puis des éléments liés à la conjoncture, des départements ont besoin de plus de formation que d'autres, voilà, tout ça c'est vu au niveau national, je dirais que nous on est là pour faire remonter les besoins, et ensuite c'est au pouvoir public de prendre des décisions. On applique.
Après une dizaine d'années difficiles, hein, je le disais, à 2008, juste après la création de Pôle emploi, ça a été les années crises qui sont arrivées. On nous dit heureusement que ça redémarre la croissance. Donc en termes de marché de l'emploi, c'est aussi une tendance que vous constatez ?
Alors oui, on constate. Hein, la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est la deuxième région la plus dynamique de France. Les études montrent qu'effectivement, il va y avoir en 2019... énormément, beaucoup en tout cas d'opérations de recrutement, mais que les employeurs estiment qu'un recrutement sur deux sera difficile. Donc ça, c'est aussi une chose qui est à prendre en considération, c'est que nous, le travail qu'on a à faire, c'est évidemment de faire en sorte, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y ait un matching entre la demande d'emploi et ce que demandent les employeurs. Après, je pense qu'effectivement, la création d'emplois va se développer. Plus on aura de création d'emplois, plus, je l'espère, le taux de chômage diminuera. Puis tout dépendra également, parce qu'on est fortement impacté par les politiques européennes, voire même d'ailleurs les politiques au niveau mondial, j'ai envie de dire. Et que, effectivement, tout ça, c'est des choses que nous, on subit et on essaie d'adapter nos politiques internes.
Merci Mathieu Boutaz d'avoir été avec nous pendant cette grosse demi-heure pour faire un petit point sur l'emploi, le Pôle emploi et sur ces bilans et perspectives à la fois régionaux et départementaux qui ont été communiqués, on aura l'occasion de vous recroiser, évidemment. Donc, je le rappelle, Mathieu Boutaz, on peut vous trouver au Pôle emploi de Fontaine. Alors, est-il utile de le rappeler aux auditeurs qui peuvent avoir besoin prochainement d'avoir recours au Pôle emploi, comment prendre contact, hein? Il y a des agences, donc de toute façon, le plus simple, c'est de prendre rendez-vous. C'est systématiquement sur rendez-vous ou il peut y avoir des gens qui débarquent comme ça à l'improviste?
Non. Alors, le matin, nous sommes ouverts de 8h30 jusqu'à 12h30, j'ai envie de dire au flux des personnes qui souhaitent venir.
Toutes les agences ou spécifiquement
toutes les agences. Et toutes les agences également l'après-midi, nous sommes ouverts uniquement sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez rendez-vous, vous venez l'après-midi, il n'y aura pas de souci, vous avez accès à nos services. Et le matin, c'est sur le flux. J'en profite pour dire que cette semaine-là, nous sommes dans le cadre de la semaine du numérique. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur pôle-emploi.fr. Il y a plus de 150 manifestations qui sont sur des métiers du numérique ou des métiers qui ont une partie de numérique. Sur les formations disponibles, sur les évolutions, des entreprises qui viennent présenter leur métier, sur toutes les agences. Voilà, donc ça, c'est des choses intéressantes. Et sur, j'en profite aussi pour dire que sur pôle-emploi.fr, il y a une rubrique qui s'appelle « Hashtag vers un métier ». Là, il y a l'ensemble des métiers en tension et des entreprises qui recrutent, qui ont du mal à recruter, et donc voilà, des possibilités de formation ouvertes aux demandeurs d'emploi.
Donc n'hésitez pas à vous informer. Merci Mathieu, à bientôt. Merci à Benjamin d'avoir assuré la technique. Merci à vous tous, auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi sur News FM. Au revoir. C'était La Voix de l'Emploi sur News FM, avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole.